Lizzy présente L'usage du monde. Récit, Genève, juin 1953. Khyber Pass, décembre 1954. De Nicolas Bouvier, lu par Jérémy Lopez. I shall be gone and live, or stay and die. Shakespeare. Avant-propos. J'avais quitté Genève depuis 3 jours et cheminais à toute petite allure quand à Zagreb, poste restante, je trouvais cette lettre de Thierry. Travnik, Bosnie. Le 4 juillet. Ce matin, soleil éclatant. Chaleur. Je suis monté dessiner dans les collines. Marguerite, blé frais, calmes ombrages. Au retour, croisais un paysan monté sur un poney. Il en descend et me roule une cigarette qu'on fume accroupi au bord du chemin. Avec mes quelques mots de serbe, je parviens à comprendre qu'il ramène des pains chez lui, qu'il a dépensé 1000 dinars pour aller trouver une fille qui a de gros bras et de gros seins, qu'il a 5 enfants et 3 vaches, qu'il faut se méfier de la foudre qui a tué 7 personnes l'an dernier. Ensuite, je suis allé au marché. C'est le jour. Des sacs faits avec la peau entière d'une chèvre, des faucilles, à vous donner envie d'abattre des hectares de seigle, des peaux de renard, des paprikas, des sifflets, des godasses, du fromage, des bijoux de fer blanc, des tamis de jonc encore verts auxquels des moustachus mettent la dernière main, et régnant sur tout cela, la galerie des unijambistes, des manchots, des tracomeux, des trembleurs et des béquillards. Ce soir était boire un coup sous les acacias pour écouter les tziganes qui se surpassaient. Sur le chemin du retour, j'ai acheté une grosse pâte d'amande rose et huileuse. L'Orient, quoi. J'examinais la carte. C'était une petite ville dans un cirque de montagne, au cœur du pays bosniaque. De là, il comptait remonter vers Belgrade, où l'association des peintres serbes l'invitait à exposer. Je devais l'y rejoindre dans les derniers jours de juillet avec le bagage et la vieille Fiat que nous avions retapée, pour continuer vers la Turquie, l'Iran, l'Inde, plus loin peut-être. Nous avions 2 ans devant nous, et de l'argent pour 4 mois. Le programme était vague, mais dans de pareilles affaires, l'essentiel est de partir. C'est la contemplation silencieuse des atlas, à plat ventre sur le tapis, entre 10 et 13 ans, qui donne ainsi l'envie de tout planter là. Songez à des régions comme le Banat, la Caspienne, le Cachemire, aux musiques qui y résonnent, aux regards qu'on y croise, aux idées qui vous y attendent. Lorsque le désir résiste aux premières atteintes du bon sens, on lui cherche des raisons. Et on en trouve qui ne valent rien. La vérité, c'est qu'on ne sait comment nommer ce qui vous pousse. Quelque chose en vous grandit et détache les amarres jusqu'au jour où, pas trop sûr de soi, on s'en va pour de bon. Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt c'est le voyage qui vous fait, ou vous défait. Au dos de l'enveloppe, il était encore écrit « Mon accordéon, mon accordéon, mon accordéon ». Bon début. Pour moi aussi. J'étais dans un café de la banlieue de Zagreb, pas pressé, un vin blanc siphon devant moi. Je regardais tomber le soir, se vider une usine, passer un enterrement, pieds nus, fichus noirs et croix de laiton. 2 jets se querellaient dans le feuillage d'un tilleul, couvert de poussière. Un piment, à demi rongé, dans la main droite. J'écoutais au fond de moi la journée s'effondrer joyeusement comme une falaise. Je m'étirais, enfouissant l'air par litre. Je pensais aux 9 vies proverbiales du chat. J'avais bien l'impression d'entrer dans la 2e. Une odeur de melon. Belgrade. Minuit sonnait quand j'arrêtais la voiture devant le café Majestic. Un silence aimable régnait sur la rue encore chaude. À travers les rideaux crochetés, j'observais Thierry assis à l'intérieur. Il avait dessiné sur la nappe une citrouille grandeur nature qu'il remplissait pour tuer le temps de pépins minuscules. Le coiffeur de Travnik n'avait pas dû le voir souvent. avec ses ailerons sur les oreilles et ses petits yeux bleus, il avait l'air d'un jeune requin folâtre et harassé. Je restai longtemps le nez contre la vitre avant de rejoindre sa table. On trinqua. J'étais heureux de voir ce vieux projet prendre forme. Lui, d'être rejoint. Il avait eu du mal à s'arracher. Il avait fait sans entraînement des marches trop longues et la fatigue l'assombrissait. En traversant, les pieds blessés et la sueur au front, ces campagnes peuplées de paysans incompréhensibles, il remettait tout en question. Cette entreprise lui paraissait absurde, d'un romantisme idiot. En Slovénie, un aubergiste remarquant sa mine défaite et son sac trop lourd n'avait rien arrangé en disant gentiment « Ich bin nicht verrückt, Meister. Ich bleibe zu Hause. » Le mois passé ensuite à dessiner en Bosnie l'avait remis d'aplomb. Lorsqu'il avait débarqué à Belgrade, ses dessins sous le bras, les peintres du LUS, l'association des peintres de Serbie, l'avaient reçu comme un frère et lui avaient déniché en banlieue un atelier vide où nous pourrions loger à deux. On reprit la voiture. C'était bien en dehors de la ville. Après avoir franchi le pont de la Save, il fallait suivre deux ornières qui longeaient les berges jusqu'à un lopin envahi de chardons où s'élevaient quelques pavillons délabrés. Thierry me fit arrêter devant le plus grand. En silence, on coltina le bagage dans un escalier obscur. Une odeur de térébenthine et de poussière prenait à la gorge. La chaleur était étouffante. Un ronflement puissant s'échappait des portes entrouvertes et résonnait sur le palier. Au centre d'une pièce immense et nue, Thierry s'était installé, en clochard méthodique, sur une portion de plancher balayé, à bonne distance des carreaux brisés. Un sommier rouillé, son matériel de peinture, la lampe à pétrole et, posé à côté du primus sur une feuille d'érable, une pastèque et un fromage de chèvre. La lessive du jour séchait sur une corde tendue. C'était frugal, mais si naturel que j'avais l'impression qu'il m'attendait là depuis des années. J'étendis mon sac sur le sol et me couchai tout habillé. La ciguë et l'ombelle montaient jusqu'aux croisées ouvertes sur le ciel d'été. Les étoiles étaient très brillantes. Fainéanté dans un monde neuf et la plus absorbante des occupations. Entre la grande arche du pont de la Save et la jonction du Danube, la banlieue poudroyait sous les feux de l'été. Elle devait son nom, Saimicht, la foire, au relief d'une exposition agricole transformée par les nazis en camp de concentration. Pendant 4 ans, juifs, résistants et tziganes y étaient morts par centaines. La paix revenue, la municipalité avait sommairement recrépi ses lugubres folies pour les artistes boursiers de l'État. La nôtre, porte qui joue, fenêtres crevées, chasse d'eau rétive, comptait 5 ateliers allant du dénuement complet à une bohème cossue. Les plus démunis des locataires, ceux du premier étage, se retrouvaient chaque matin, blaireau en main devant le lavabo du palier, en compagnie du concierge, un mutilé de guerre, la casquette vissée au crâne, auquel il fallait pincer la peau du menton pendant que, de sa main unique, il y passait prudemment le rasoir. C'était un homme souffreteux, plus méfiant qu'une loutre, sans rien d'autre à faire que surveiller une fille en âge de fauter et glaner dans les toilettes, des latrines à la turque où l'on vide ses poches avant de s'accroupir, les bricoles, mouchoirs, briquets, stylos, que les usagers distraits avaient pu oublier. Milovan, le critique littéraire, Anastase, le céramiste, et Vlada, un peintre paysan, occupaient les ateliers du rez-de-chaussée. Toujours prêts à nous aider, à nous servir d'interprète, à nous prêter une machine à écrire, un morceau de miroir, une poignée de gros sel, ou à convier la maisonnée entière lorsqu'ils avaient vendu une aquarelle ou un article à un banquet vociférant. Vin blanc, poivron, fromage, suivi d'une sieste collective sur le plancher ensoleillé et nu. Dieu sait pourtant qu'ils vivaient chichement, mais les années noires de l'occupation et de la guerre civile leur avaient enseigné le prix de la douceur. Mais Saimicht, à défaut de confort, avait une bonhomie bien à elle. C'était une jungle de pavots, de bluets, d'herbes folles qui montaient à l'assaut de ces bâtiments dégradés et noyaient dans son vert silence les cambuses et les campements de fortune qui avaient poussé tout autour.